journal présenté par Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui ont constaté leur désaccord cet après-midi au fort de Brégançon. Malgré les déclarations de bonnes intentions, les divergences persistent, notamment sur la Syrie et la question des droits de l'homme en Russie. On sera dans le Var dans un instant avec Bertrand Galichet. Des nouvelles plutôt rassurantes pour la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra, détenue depuis le début de l'été en Iran. Pour la première fois, l'anthropologue qui est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État va avoir accès à un avocat. Dans ce journal également, des milliers d'hectares d'espaces protégés qui ont brûlé aux Canaries. La Grande Canarie est touchée par un gigantesque incendie qui est ce soir hors de contrôle. Le récit à suivre de Juliette G. Et puis le chantier de Notre-Dame de Paris qui a repris. Les autorités ont donné leur feu vert. Les travaux avaient été interrompus à la fin du mois de juillet en raison d'une pollution au plomb. Un climat plutôt détendu, mais sans surprise, de nombreux désaccords. C'est le résumé de l'après-midi au fort de Brégançon dans le Var après le tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Le président français a reçu le chef du Kremlin dans sa résidence d'été. L'objectif était de détendre la relation entre la Russie et l'Europe. Emmanuel Macron a plaidé pour un rapprochement et un retour de la confiance. Des mots apaisant, mais lorsque les dossiers ont été abordés, la Syrie notamment, ou encore les droits de l'homme, là les deux présidents ont campé sur leur position. Le récit au fort de Brégançon de Bertrand Galichet.
Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il n'y a sans doute pas que des sujets qui fâchent, même si les divergences sautent aux yeux lors de leurs échanges publics. Leur rencontre à Brégançon aujourd'hui n'a pas dérogé à la règle. Le président français joue la carte de l'empathie avec son homologue russe. Vladimir Poutine a fait l'effort de venir avec un bouquet de fleurs pour Brigitte Macron et de hocher la tête d'un air admiratif en découvrant la résidence d'été du chef de l'État. Au-delà, il y a eu cet échange ferme sur les libertés publiques. L'allusion d'Emmanuel Macron à la répression des manifestations politiques en Russie a crispé Vladimir Poutine, qui lui a renvoyé en écho la polémique sur l'usage de la force contre les gilets jaunes. L'appel de la France à la Russie pour qu'elle use de son influence auprès du régime de Damas afin de stopper les opérations militaires à Idlib n'a pas eu plus de succès. En dépit des victimes civiles sur lesquelles Emmanuel Macron insiste, le numéro 1 russe reste inflexible au nom de la lutte contre le terrorisme. Reste la question ukrainienne, sur laquelle Vladimir Poutine affiche un optimisme prudent et verrait d'un bon œil une initiative diplomatique. Au moins la Russie a-t-elle pu aujourd'hui faire valoir son point de vue à quelques jours du G7 dont elle est exclue.
En Russie, où la justice a rendu sa décision dans l'affaire Gurvan Le Gall, ce Français était jugé pour avoir tenté de corrompre des policiers lors d'un contrôle d'identité. Un tribunal russe l'a condamné aujourd'hui à 10 mois de prison ferme. Compte tenu de sa période de détention provisoire, le Français devra encore purger 47 jours de prison. Son avocat dénonce une décision de justice totalement disproportionnée. Elle est emprisonnée en Iran depuis le début de l'été et ce soir, les nouvelles sont plutôt positives sur le sort de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra. L'anthropologue est détenue en Iran pour atteinte à la sûreté de l'État, une affaire suivie par les autorités françaises mais qui inquiète beaucoup les amis et les collègues de l'universitaire. Jusqu'ici, en effet, Fariba Adelra n'avait pas accès à un moyen de défense. C'est désormais chose faite, un avocat a été désigné, de quoi rassurer un peu le chercheur Jean-François Bayard, ancien directeur du CERI Sciences Po, le laboratoire de recherche auquel est rattaché l'anthropologue.
Nous sommes relativement rassurés, d'une part parce que nous avons des informations indirectes, fugitives, sur le fait que Fariba a du tonus, qu'elle est combative et qu'elle supporte relativement bien ses conditions de détention, tout cela au conditionnel. Il faut être prudent, on n'en a pas de certitude, mais c'est naturellement un élément rassurant. Le deuxième élément rassurant, c'est que nous savons maintenant qu'elle bénéficie d'une assistance judiciaire. Les Français, quand je dis les Français, c'est l'ambassade de France, ont identifié un avocat spécialiste des droits de l'homme. Et celui-ci est parvenu à avoir des relations avec le juge qui a été désigné pour instruire le cas de Fariba Adelra. Et la dernière et bonne nouvelle, qui est toute récente, c'est que l'avocat a été agréé par les autorités judiciaires iraniennes et donc Fariba Adelkha, à partir de cette semaine, bénéficiera d'une assistance judiciaire en bonne et due forme. On lui reproche une atteinte à la sûreté de l'État, mais le dossier serait complètement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Madame Adelkha a écrit tel article ou Madame Adelkha s'est rendue sur tel lieu ou Madame Adelkha a vu telle personne. Donc pour autant qu'on le sache, pour l'instant le dossier est vide.
Le chercheur Jean-François Bayard qui répondait aux questions de Tara Schlegel. Le Burkina Faso, visé une nouvelle fois par les groupes terroristes, une dizaine de militaires a été tué ce matin lors d'une attaque d'envergure menée donc par des groupes armés dans le nord du pays. D'autres soldats sont portés disparus et le bilan pourrait dépasser au total une vingtaine de morts. La question des migrants provoque de grosses tensions au sein de l'Union européenne. Une honte pour l'humanité, ce sont les termes de la ministre espagnole de la Défense à propos de Matteo Salvini qui refuse toujours, on le sait, de laisser débarquer les migrants de l'Open Arms sur l'île de Lampedusa. Le gouvernement espagnol a proposé d'accueillir le bateau au Baléares à Palma de Majorque, mais l'ONG espagnole qui a affrété le navire a rejeté cette éventualité en raison de l'éloignement. Autre archipel espagnol, mais côté Atlantique, les Canaries qui sont confrontés cet été à de gros incendies. Cette fois, c'est l'île de la Grande Canarie qui est touchée. Un incendie hors de contrôle, selon les autorités, qui a déjà parcouru 6000 hectares. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Un désastre aussi sur le plan de l'environnement. Le point avec Juliette G.
Cet après-midi, les pompiers sont enfin parvenus à stabiliser une partie de l'incendie sans l'éteindre. Pour l'instant, il n'y a aucun blessé, mais 9000 personnes ont été évacuées et recueillies dans des centres d'hébergement. Cette habitante de Valle Secos, interrogée par la télévision espagnole, a dû tout abandonner.
C'est un désastre. Il y a des personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur maison parce qu'elles ont peur de la perdre. C'est pareil pour moi. Si ma maison brûle, je n'ai plus rien.
Pour la biodiversité aussi, le bilan est lourd. Les flammes brûlent désormais le parc de pins de Tamadaba et la réserve d'Inagua, deux sites protégés par l'UNESCO. Ángel Víctor Torres, le président de la région des Canaries, parle d'un drame environnemental.
Nous avons déployé un maximum de moyens aériens, mais cet incendie est très difficile à maîtriser et le nombre d'hectares affectés augmente. Il y a des zones avec des flammes de 50 mètres de haut où il est impossible d'entrer avec des moyens aériens. De même, il y a de la fumée qui gêne notre intervention.
Plus de 1000 pompiers et 14 avions et hélicoptères sont mobilisés, le plus grand dispositif jamais déployé aux Canaries. Selon les services d'urgence, il faudra encore au moins 2 à 3 jours pour contrôler ces feux.
Le récit de Juliette G. Le chantier de Notre-Dame a repris aujourd'hui. Le préfet d'Île-de-France, Michel Cadeau, a donné son feu vert. Les travaux étaient interrompus depuis le 25 juillet dernier en raison des risques de pollution et de contamination au plomb après l'incendie qui a ravagé la cathédrale au mois d'avril. La préfecture estime que toutes les conditions de sécurité sont désormais remplies pour les ouvriers qui travaillent sur le chantier. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est rendue aujourd'hui sur le site. Explication de Fiona Mogadam.
Comme tous les ouvriers sur le chantier, la ministre du Travail a dû prendre une douche de décontamination après sa visite du site. Muriel Pénicaud a tenu à vérifier le respect des conditions de sécurité pour les travailleurs. L'inspection du travail recommandait notamment un passage par un sas de décontamination, le nettoyage des vêtements contaminés par une entreprise spécialisée ou encore une formation obligatoire sur les risques du plomb pour toute personne présente sur le chantier. C'est désormais chose faite pour éviter toute dispersion des poussières de plomb en dehors de la zone. Les ouvriers doivent également porter des vêtements jetables. Des mesures qui vont dans le bon sens pour la CGT qui s'inquiétait avec des associations des risques dus au plomb mais qui sont loin d'être suffisantes. Benoît Martin est le secrétaire général de l'Union départementale CGT Paris.
Il reste du plomb sur le site et ça va continuer à être disséminé autour de Notre-Dame dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et donc c'est pour ça qu'il aurait fallu, selon nous, totalement isolé et rendre étanche Notre-Dame par un travail de confinement.
Et pour les zones autour de la cathédrale où des taux importants de concentration en plomb ont été relevés, des travaux de décontamination ont été lancés la semaine dernière.
Les prévisions de Météo France pour demain, de la pluie au programme sur tout l'est du pays et en descendant aussi jusqu'aux Alpes et une partie de la Provence. Dans le sud-ouest, le département de l'Ariège est en vigilance orange pour le risque d'inondation. Demain après-midi, vous aurez 17 degrés à Rouen, 20 à Strasbourg et 30 à Ajaccio. Il est 22h10 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé avec Brice Garcia.